Alors, on va parler aujourd'hui du mystère de la stérilité de nos mères. À quoi ça nous emmène, et même si c'est des choses qu'on connaît, mais je pense que les revoir avec un regard un peu plus profond sera très bénéfique. On commence comme d'habitude par une petite histoire. C'est l'histoire donc, que le Rav Ashkenazi ramène au sujet d'un de ses amis, qui s'appelait Herzl Kotsochvili, en fait, qui est un chassid, Chabad, qui est de métier journaliste, et qui s'était rendu à New York lors d'un... Il y a deux ans, cette histoire. Il s'était rendu à New York pour le kinous des shluchim. Vous savez, ils font le rassemblement de tous les shluchim de la planète.
Ah oui.
Qui se rassemblent toujours le Shabbat qui précède Rosh Chodesh qui se lève. Ah. Ils sont 5000. Ah oui. Et bon, le moment le plus extraordinaire, c'est le moment où ces 5000 shluchim se rendent sur le Ohel du Rabbi pour aller prier ensemble, etc. Et bon, c'est impressionnant.
Ça doit être impressionnant.
Ouais, c'est impressionnant. Et donc voilà, ce jour.
Il y a deux ans.
Ce rassemblement a lieu tous les ans. Tous les ans, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh qui se lève.
Donc il y a...
Là, il y a quelques semaines. Exactement. Et donc, le rassemblement il y a deux ans, ce qui s'est passé, donc ce journaliste qui était parti donc faire un reportage lors du kinous d'il y a deux ans, revient en Israël. Lui, donc, était marié depuis exactement 10 ans. Il était marié depuis 10 ans et n'avait pas d'enfant. Lorsqu'il arrive, il atterre en Israël, vraiment quelques jours plus tard, à peine, il reçoit un coup de fil d'un ami qui lui dit, écoute, Herzl, il s'appelle Herzl, ce chassid, ce journaliste. Il dit, vraiment, je te dis...
C'est parti des Chabad.
Ouais, c'est un chassid Chabad, mais c'est un journaliste.
D'accord.
Et donc, il lui dit, écoute, franchement, ta situation, la situation de stérilité que tu vis dans ton couple m'affecte énormément. J'y pense très souvent. Et dernièrement, j'ai décidé de ne pas me suffire de l'empathie que je ressens, mais de faire quelque chose. Et donc, voilà, écoute, j'ai acheté 2 billets pour New York, pour toi et ton épouse, et je te les offre à 3 conditions. C'est que tu ailles à New York avec ton épouse pour aller donc sur le Ohel du Rabbi, pour aller prier, pour avoir des enfants. Mais voilà, que ce voyage ne soit un voyage que de prière, pas un voyage où en même temps on va faire des sorties, tu vas faire des achats, etc. Tu vas pour prier uniquement deux, trois jours, que tu lises, que tu ne parles à personne de ce voyage, tu ne mettes au courant personne, et que tu lises là-bas, toi et ton épouse, chacun de façon respective, que vous lisiez tout le Tehillim sur le Kever du Rabbi pour demander d'avoir des enfants. Il dit, écoute, c'est tellement touchant ce que tu me proposes. Bien sûr que même si je reviens de New York il y a quelques jours, d'accord, c'est gentil, je ne peux qu'accepter. Effectivement, il retourne donc à New York avec sa femme, 3 jours. Ils ont séjourné pas très loin du Kever du Rabbi. Et le cœur du Rabbi se trouve à 15 minutes de l'aéroport, donc ils sont sur le point de rentrer sur Kennedy pour retourner en Israël. Et donc dans le taxi, le mari dit au taxi, pouvez-vous arrêter 2 minutes, j'en ai pour 2 minutes. Il veut une dernière fois se rendre sur le Kever du Rabbi, alors qu'il avait lu tout le Tehillim, après son séjour, à la fin, vraiment avant de partir. C'était le 17 qui se lève, il y a 2 ans. Et donc... là, il arrive devant le cœur du Rabbi, il est pressé, il a vraiment quelques minutes. Sa femme, dans le taxi, l'attend. Il dit, voilà, Rabbi, intercède auprès d'Hachem en faveur de mon couple, de ma femme, afin qu'elle puisse tomber enceinte cette année encore. Je veux cette année et je m'engage à venir tous les ans, l'année prochaine, te remercier pour cette fille-là qui sera exaucée. Tov, il rentre avec sa femme en Israël. 4 mois plus tard, on lui annonce effectivement les résultats. Sans savoir, sa femme est enceinte. Et donc, on fait donc les premiers examens, le suivi, etc. Et donc, quelques mois plus tard, on leur donne même la date, comment dire, la date de... Comment dire, la date prévue de l'accouchement.
D'accord.
Il y a un nom sur cette date, mais je ne me rappelle plus, mais peu importe. Et donc, on lui donne la date de l'accouchement à sa femme. Ça peut être avant, ça peut être après.
Oui, quelques jours.
Le terme, voilà, la date du terme. Le terme. Le terme tombe exactement le 17 qui se lève. C'est exactement la même date où il se trouvait devant le rabbi à faire cet accord avec lui. Quand même, bon. Et ce qui est extraordinaire, bon, Hachem, elle a donné donc naissance à un petit garçon... le 17 qui se lève d'après, mais elle est en fait, elle a eu des contractions le 17 qui se lève, elle a eu à terme de contractions, mais elle a accouché après le coucher du soleil, le 18. Et lui, il a fait, c'est extraordinaire, il a réalisé qu'avec le décalage horaire, hein,
eh oui.
À New York, ils sont encore le 17. Ils sont encore le 17. Oui. Donc, ça, c'est vraiment accompli dans l'année, voilà, dans l'année. Ka'et Chaya. Top! Baruch Hashem, Mazal Tov, tout le monde est heureux, soulagé de voir ce couple avoir des enfants. Et donc les gens se mettent à l'appeler pour le souhaiter Mazal Tov. Il y a une personne qui s'appelle le Rav Levi Vilimovski, qui est un chassid Chabad aussi, qui l'appelle et on va dire qu'il tient un discours un peu différent des autres. Il l'appelle, il lui dit, écoute, voilà... moi, il faut, avant que de te dire quoi que ce soit sur l'heureux événement, il faut que je te demande Mechila. Maman, je Mechila.
Qui a qui ?
Le Rav en question, le Rav Levi Vilimovski, à Herzl, à ce au père de l'enfant. Il lui dit, il faut que je te demande Mechila. Mechila, pourquoi ? Il dit, écoute, moi, je suis passé par ton épreuve. Moi-même, avec ma femme, on n'a pas eu d'enfant pendant 13 ans. Et bien, après 13 années, d'attente, de tfilote. Akadosh Baruch Hu nous a fait le miracle, comme toi, d'avoir eu des enfants. Et donc, je sais exactement par quelle épreuve tu es passé. Je sais ce que représente l'angoisse que constitue la stérilité, l'attente d'un enfant pendant 13 ans. Et tellement j'en ai été conscient que lors d'éventuelles rencontres où je te rencontrais dans des bar mitzvot dans lesquels on était invités en commun, des mariages, des smachot, des kiddush, des offices, etc. À chaque fois, quand je te voyais, je changeais de trottoir, je m'éloignais, je faisais tout pour éviter ton regard. Parce que j'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise. En me disant, mais pourquoi moi j'ai eu ce miracle et pourquoi lui ne l'aurait pas ? Et donc je savais pas quoi te dire. J'étais mal à l'aise, c'est tellement mal à l'aise que vraiment, voilà, je te fuyais tout simplement. Alors aujourd'hui, au Baruch Hashem, tu as pu bénéficier du même miracle que moi. Je suis heureux de pouvoir t'appeler et te dire de vive voix combien mon épouse et moi sommes soulagés pour vous, profondément heureux, en te souhaitant Mazal Tov, etc. etc. Tout ça pour dire qu'effectivement les problèmes de stérilité sont des problèmes lourds, d'accord, assez angoissants. Et on remarquera dans la paracha de Vayetse, là on y arrive, là je pense qu'on peut parler de nos imaot, puisque c'est dans la paracha de Vayetse que sont constitués le noyau à partir duquel le peuple d'Israël va sortir. Donc on a eu Abraham, on a Israël, maintenant on est avec Yaakov. On a eu Sarah, on a eu Rivka dans la paracha de la semaine dernière, et là, cette semaine, on a Rachel et Léa. Et on constate qu'effectivement, toutes nos imaot étaient stériles. Toutes nos imaot, les quatre. En fait, c'est une psikta, c'est une sorte de midrash dans laquelle c'est marqué Sheva Akarot Hayu. Dans notre histoire, il y a eu beaucoup plus, mais sept illustres femmes qui étaient stériles de nature. Sarah, Rivka, Rachel, Léa, la mère de Shimshon, Eshet Manoach, la femme de Manoach, Chana et Yerushalayim. Comme ça, Yerushalayim. Roni, Akara, Sostasis, Vetagel, Akara. Yerushalayim est appelé aussi stérile. C'est un peu cette incertitude, ce sort incertain. On va comprendre après, ça veut dire quoi ? Pourquoi Jérusalem est appelé Akara ?
Oui, c'est. Merci.
On remarque, hein ?
Merci.
Alors, on remarque aussi, regardez, on remarque quelque chose d'intéressant. C'est que, en fin de compte, on aurait, si, à l'instar de nos pères, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov, étaient père et fils. D'accord ? On a le grand-père, on a le père, on a le fils. À l'instar des Avot, les Imaot n'étaient pas mère et fille. Donc, on a Sarah qui est la nièce d'Abraham. On a ensuite Rivka qui est en fait la fille de sa sœur, la fille de sa sœur. La sœur, sa nièce, la nièce de Sarah, exactement, la nièce de Sarah.
C'est nièce.
Exactement. Et Rachel et Léa, qui est aussi la nièce. Et donc, on voit que ces quatre femmes qui ne sont pas, on va dire, directement liées génétiquement, mais tous rencontrent le même problème, le problème de la stérilité. Tous rencontrent ce problème-là. Et Bémet, ça nous interpelle. Comment c'est... Vous savez, il y a même une façon de lire la Torah qui est que toutes les femmes, depuis l'histoire, depuis le début de l'histoire de l'humanité, depuis Bereshit jusqu'à Abraham, n'ont jamais connu ce phénomène de la stérilité. Comme la fin de la Torah le dit à la fin de la parashat noire, Vatei Sarai Akara Ella Valad. Et voilà, est arrivée en fin de compte la première femme dont on parle de façon virtueuse dans la Torah. Vatei Sarai Akara. C'est la première qui a vécu ce dysfonctionnement lourd de conséquences de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Alors, bien entendu, la question est. Attends, je comprends. Mais Dafka, Kadosh Baruch Hu, t'as entendu que des femmes extraordinaires arrivent sur la scène pour créer le phénomène de la stérilité. Et cette question est posée dans la Gemara. C'est la Gemara dans Yevamot, Daf Samech Dalet, qui dit Mipnema ayu Mipnema nit akru aimaot. Bémet, la question existe aussi dans la Gemara à propos des avot. Alors, on va en parler. Alors, on va en parler tout de suite. On va en parler. Non, je suis désolé, c'est pas aussi évident que vous le dites. C'est pas évident. Mais avant d'arriver au avot, avant d'arriver au avot, juste rappelons-nous, on va dire les sacrifices que cette épreuve de stérilité a occasionné chez nos mères. C'est-à-dire que Sarah a dû faire rentrer Agar. On sait que faire rentrer une femme pour que son mari puisse avoir un enfant, c'est. Chachamim appelle. Le statut de cette femme s'appelle une tsara. Alors, une tsara, bon, alors en arabe, ça va très bien. C'est tsara, c'est bon, c'est d'accord. C'est ça, mais aussi, dans Lashon HaKodesh, tsara, ça veut dire que, en fait, le cœur d'un homme est trop étroit pour aimer de la même façon deux femmes. En ça, donc la deuxième femme est une tsara. Donc, vous imaginez la souffrance dans laquelle Sarah s'est rentrée en acceptant de faire rentrer Agar. Et on le voit encore dans la paracha de la semaine, où Rachel va faire rentrer Bilha pour qu'elle puisse avoir des enfants. Elle dit « Oulai ibane gam anochi mimena ». Peut-être que moi aussi, on va essayer de comprendre plus profondément ce que ça veut dire. Et plus que ça, on voit que pour avoir des enfants, Sarai a dû changer de nom. Elle ne s'appelle plus Sarai, mais elle s'appelle Sarah. Donc on va dire, cette épreuve a été lourde de conséquences chez ces Imaot-là. On l'a vu en tout cas avec Rivka la semaine dernière. Et puisqu'on parle des Imaot, Léa était aussi Akara, puisque c'est marqué Vayar Hachem qui s'est noua Léa, Vayiftach et Rachma. Hachem vit que Léa avait une position assez défavorable, alors il a décidé d'ouvrir sa matrice. Pourquoi me parler d'ouvrir sa matrice à partir du moment où naturellement elle peut avoir des enfants, si ce n'est qu'elle était aussi stérile. Donc Léa aussi était stérile. Donc la question principale, que toutes étaient stériles. Alors maintenant, concernant les Avot, justement, Avraham, c'est clair, il est lui aussi était stérile, puisqu'Akadosh Baruch Hu lui change son nom aussi d'Avraham en Avraham. Et on le voit dans le Brit Ben Abetarim, moi voilà, comment, ou Ben Meshek Beti ou Damesek Eliezer.
Lui, il n'était pas stérile puisqu'il a. Avec Agar.
Alors, mais avant d'avoir cette relation avec Agar, c'est là on a dit Ve'inia Anochi Olech Hariri. Il dit Avraham, voilà, je veux pas avoir d'enfant. Donc Akadosh Baruch Hu, comment on va continuer notre histoire? Et là arrive sur la scène Agar avec Ishmael, etc. Donc Avraham était aussi stérile. Yaakov ne l'était pas. Ça, c'est sûr, puisque lui, donc, à aucun moment, il n'y a pas un remèze sur lui qui nous ferait dire le contraire. Par contre, Yitzhak, il y a une marloquette. sur Yitzhak, justement, quand on regarde dans la paracha de la semaine dernière, Vayetar Yitzhak l'Hashem lenoch achishto, ki akarahi. Vayater lo Hashem vatariv kaishto. Le Baal HaTurim sur place, il dit, ki akarahi, magnifique. Il dit, le Baal HaTurim, ou ktiv. Quand vous voyez tel que c'est écrit dans la Torah, celui qui n'a pas préparé la paracha dirait, ki akara hu. Alors, akara, c'est elle, mais c'est marqué hu, c'est marqué avec un vav. Et on le lit, hi, magnifique. Qu'est-ce que dit le Baal HaTurim ? Ki af hu aya akur. Lui aussi était stérile. Alors ça, c'est la thèse, effectivement, du Baal HaTurim, qui s'inspire de certains midrashim, parce que d'autres disent, et le Baal HaTurim le dit lui-même, regardez, ve'it et dedar she amikra lomar hi velohu. Il y en a qui disent, non, c'était elle et pas lui. Qui a karahi, généralement quand on dit hi, c'est velo ou. Il dit des actives qui beitzra qui ikarel et chazara. Quand je crois avait déjà dit Abraham qui beitzra qui ikarel et chazara, donc Yitzhak ne peut pas être stérile selon la parole divine. Et Bémet s'est repris dans le Zohar. Le Zohar le dit explicitement que Yitzhak n'était pas stérile. Alors ça nous amène à quelque chose d'assez intéressant, un avort qui est ramené dans le Talé de Horot du Rav Rubin. C'est très joli, c'est tellement vrai, tellement fort. Supposons qu'effectivement Yitzhak ne l'était pas. Donc ça voudrait dire que aussi bien Sarah, Rivka, Rachel et Léa, eux étaient certainement stériles. Avraham l'était, mais Yitzhak et Yaakov ne l'étaient pas. À quoi ça correspond ? Pourquoi Kadosh Baruch Hu aurait fait ça ? Et bon, peut-être que le vort est connu de vous déjà, mais c'est vraiment très très fort. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu a voulu faire en sorte que le peuple d'Israël soit différent de l'histoire de l'humanité en tant qu'idolâtre qui avait eu lieu auparavant. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu aurait organisé une sorte de rupture naturelle. Je ne veux pas que Avraham, qui est le fils de Terach, puisse avoir naturellement une force fertile ou féconde, qui puisse avoir des enfants grâce au fait que Terach l'a mis au monde. Non, l'histoire biologique d'Avraham s'arrête à lui. À partir de là, c'est une histoire divine qui commence. Et c'est magnifique comment ça tombe bien, parce que au niveau des pères, on n'a qu'Avraham. Selon le Zohar, Yitzhak n'était pas stérile, et Yaakov n'était pas stérile. Pourquoi ? Parce que Yitzhak avait un père qui n'était pas idolâtre, et Yaakov avait un père qui n'était pas idolâtre. Mais tous ceux qui avaient un père idolâtre a dû subir cette rupture, cette scission. Et c'est le cas exactement de Sarah, qui était la fille de Haran, de Rivka, qui était la fille de Bethuel, et de Rachel et Léa, qui étaient les filles de Lavan. Eux ont dû subir cette rupture. Le peuple d'Israël, non, Adkan, voilà, ça, biologique, ça s'arrête là. Maintenant, c'est une histoire de miracle. Alors, c'est comme ça qu'on expliquerait, on va dire, pourquoi les Imaot, les témoins, on n'a pas expliqué maintenant la raison pour laquelle et pourquoi Kadosh Baruch Hu leur a fait subir cette chose-là. Alors, pour pouvoir répondre à ça, il y a une histoire, une très belle histoire qui est racontée sur Rav Mordechai, le premier Admour de Tchernobyl. Le Admon de Tchernobyl s'est toujours positionné de façon différente des autres Rebbeim, des autres Admourim, dans le fait qu'il n'a jamais construit d'édifices, d'établissements fixes où se rassembleraient tous les Chassidim de Tchernobyl. Lui avait un programme bien défini en différents Shabbatot qu'il passait dans différents villages où il séjournait à chaque fois chez des chassidim assez aisés, assez riches, et là-bas, il recevait tous les chassidim. Et comme ça, tous les ans, il avait son tour, son circuit. Et donc, dans ce circuit, il y avait un fameux chassid d'un certain village, qui était aussi bien... En tout cas, il avait une très belle situation, une très belle maison. C'est lui qui recevait le rabbi tous les ans. Et donc, le Shabbat en question approchait, le chassid prépare tout son domicile, les domestiques, les plats, les courses, la chambre, les travaux. Non, mais Bekitsour, l'arrivée du rabbi, pour lui, chaque année, est un événement très important. Et voilà que, quelques jours avant l'arrivée du rabbi dans ce village, le gabaï, le secrétaire du rabbi, se rend directement chez ce monsieur pour lui dire, écoute, voilà, le rabbi m'a dit de te faire part que cette année, il ne viendra chez toi qu'à une seule condition. Dis-moi, c'est quoi la condition ? Tu dois lui verser la somme de 10 000 roubles. Non, 10 000 roubles, c'est le salaire de 5 ans à peu près à l'époque. C'est une somme Il dit, mais je ne les ai pas. Le rabbi ne veut pas que je vende ma maison et tous mes biens. Écoute, tu te débrouilles. Le rabbi, tu lui donnes 10 000 roubles, sinon il ne vient pas chez toi. C'est pas possible. Maintenant, il est impensable que le rabbi soit avide d'argent, etc. C'est clair qu'il avait ses raisons. Il dit, mais je ne les ai pas, je ne peux pas. Voilà. Effectivement, le vendredi d'après, le rabbi arrive. Il cherche tout de suite un autre habitat, un autre hassid chez qui il va séjourner. Il ne se rend pas chez ce hassid. Ce hassid, très frustré, très peiné, n'est même pas reçu par le rabbi en question. Le rabbi ne veut pas le recevoir tant qu'il a dit « Je ne te verrai pas tant que tu ne me verseras pas 10 000 roubles. » C'est un peu bizarre. Quelques semaines plus tard, ce hassid en question est amené à faire un voyage d'affaires. Il part de chez lui et pendant quelques semaines. Quelques jours après son départ, comme ça se faisait en Russie à l'époque, quand l'armée traversait des villages, ils imposaient aux habitants d'héberger un groupe de soldats. Étant donné que lui avait la maison la plus grande, la plus prestigieuse, donc c'est clair qu'on lui avait envoyé un bon groupe de soldats. Lui n'était pas là, sa femme, ses domestiques les ont reçus, etc. Bon, ils sont restés 2-3 jours, les soldats, et après ils sont repartis. Suite à leur départ, la domestique découvre que le coffre, c'est-à-dire l'argent qu'ils avaient sur eux, a été oublié. Maintenant, impossible de savoir leur nom, où ils sont partis, est-ce qu'ils vont venir, etc. Et lui, donc, le chassid en question revient, et la domestique lui fait pas, écoutez, monsieur, voilà, ils ont oublié. Il ouvre la sacoche, et il trouve effectivement la somme de 10 000 roubles. Il dit, mais c'est extraordinaire. Et voilà, ça y est, j'ai résolu mon problème. Immédiatement, ni une ni deux, il prend cette somme, il va se diriger là où le rabbi se trouve, et le rabbi le reçoit, il lui pose la sacoche, voilà rabbi, les 10 000 euros. Alors est-ce que je pourrais avoir l'explication? Il dit, tu n'as aucune explication à avoir, puisque ces 10 000 euros ne sont pas à moi, ce sont les tiens, je ne les veux pas, c'est à toi, tu les gardes. Je ne comprends pas, vous n'êtes pas venu chez moi, vous m'avez évité, vous ne m'avez pas reçu. Il a dit, écoute, c'est très simple. Tu connais le lien que j'ai avec toi et te concernant, j'ai ressenti que cette année tu devais gagner une grande somme, la somme de 10 000 roubles. Sauf que te connaissant, je savais que tu étais installé dans un train de vie agréable, confortable et que rien ne te poussait à demander cette somme astronomique. Donc, pour faire en sorte que les 10 000 roubles qui t'étaient prévu puisse te parvenir, je t'ai demandé moi 10 000 roubles afin que toi, dans tes tfilotes, tu bouges ciel et terre, tu demandes à Kadosh Baruch Hu de te donner 10 000 roubles pour établir ta relation avec moi. Maintenant que tu les as eus, bon, Hachem, c'était la décision du bon Dieu, tu n'as qu'à Kadosh Baruch Hu à remercier, pas moi. En fait, vous avez compris que cette histoire, cette véritable histoire, fait référence à la réponse que les Chachamim donnent dans le Midrash, aussi bien dans le Midrash que dans la Gemara. Mipnema nitakru avotenu. Ou mipnema imaot ayuakarot. Dit les Chachamim, mipne shakadosh bohu mitave litfilatan shel tzadikim. Akadosh bohu désire la tfilat des tzadikim. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de suffisance dans laquelle l'être humain aurait tendance à s'installer, et Akadosh Baruch Hu veut bousculer cette suffisance, ce sentiment de suffisance, et donc il va faire quelque chose de très fort. C'est pas qu'il va, il va des fois, voilà, à la rigueur, dans l'histoire de ce chassid, tu pries pas, tu n'auras pas tes 10 000 roubles, mais il a de quoi vivre. Non, il n'est pas à plaindre. Mais il va faire plus que ça. Akadosh Baruch Hu, des fois, va imposer une épreuve qui occasionne énormément de souffrance pour obliger... Non, mais attends, je dois te donner... Et je vais te donner, mais je vais t'obliger à me demander de le donner. Et c'est ça, Akadosh Baruch Hu mit ave litfilatan shel tzadikim. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans énormément de contextes dans la Torah. Pour parler de la création du monde, on le voit avec la végétation. Akadosh Baruch Hu attend que Adam soit créé pour que lui demande que la pluie descende pour que la végétation se développe. On le voit au niveau de Kriyat Yam Souf. La nuée va les amener de façon complètement désordonné afin de troubler l'esprit de Paro pour les amener devant la mer, pour que Paro les rejoigne et pour que la mer se referme sur les Égyptiens. Donc enfin, Akadosh Baruch Hu crée cette situation de danger d'être menacé par les Égyptiens qui étaient derrière nous pour qu'on puisse se tourner vers lui, prier et bénéficier du miracle qu'il avait prévu pour nous. Alors ça, c'est les contextes dans lesquels on voit clairement ce système, on va dire, vu par Akadosh Baruch Hu de ce que nous, on appelle la tfila. Mais il y a aussi un pérouche de Rabbeinu Bechaye. Sur la paracha de la semaine dernière, justement, Rabbeinu Bechaye dit comme ça, regardez, c'est un détail auquel on ne fait pas attention. Vayetar Yitzhak l'Hachem. Donc littéralement, il a retourné la situation auprès d'Hachem, c'est-à-dire il a prié. Lenochachisto, au sujet de sa femme, qui a karaï, car elle était stérile. Demande le Rabbeinu Bechaye. Mais dis-moi les choses à l'endroit. Dis-moi, Vatei Rivka Akara. Rivka était stérile. Donc Yitzhak s'est mis à prier. Regardez, le Rabbeinu Bechaye dit, le pshat, il est très simple. Non, parce que Rivka n'est pas stérile pour être stérile. Rivka est stérile pour qu'il bouge au niveau de leur tfilote. Donc Yitzhak a prié parce qu'il a compris que la stérilité de sa femme était due au besoin que lui prie. Alors Vayetar, donc c'est la priorité, c'était quoi? Le but, l'objectif, c'était de prier. Alors on te fait part. Maintenant, le moyen était la stérilité de sa femme. Ok. Vayetar Yitzhak l'Hachem. Qui a karaï? Maman, je le pshat du pasouk. On ne peut pas lire autrement. Mais le pasouk.
Elle ne lui a pas demandé, elle, de...
non,
qu'il prie?
Non, pas du tout. Non, ça c'est après. Ben, ça, on arrive à notre paracha. On arrive là à paracha de Vayetar. Alors... là, avec Rachel, effectivement. Donc, on assiste effectivement à une discussion assez houleuse, assez dure, entre Yaakov et Rachel, ce couple qui est défini par la Torah comme deux personnes qui s'aiment profondément. Et là, donc, à un moment donné, lorsque Rachel voit que Léa a plusieurs enfants et qu'elle n'en a pas du tout, donc elle va voir son mari, elle lui dit « Avali banim ve'im ayin meta anochi ». C'est pas une question de confort, c'est une question de piquoir en effet. Je ne vois pas le but de ma vie si je n'ai pas d'enfant avec toi. Quelle est la réponse de Yaakov? Il lui dit non. Une réponse alors, qu'on a du mal à comprendre. Vayichar af Yaakov et Rachel, il s'énerve même. Et il lui dit Vayomer atachat elokim anochi, asher mana mimer peribaten. Mais non, je suis pas le bon Dieu. Il t'a empêché à toi. En fait. Quand on compare cette réponse avec la réponse que Elkana donne à sa femme, rappelez-vous quand Hana, elle va voir Elkana, et qu'il lui, il voit que sa femme est profondément triste, il lui dit « Lame tivki velame lotochli velame ira leva ver » « Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu ne manges pas? Et pourquoi tu es si mal que ça ?»« Alo anochi tov lach me'asara banim » Il lui dit « Je peux compenser même 10 enfants pour toi. » C'est-à-dire qu'à la rigueur, dans la réponse d'Elkana, il y a une empathie, il y a une compassion. Dans la réponse de Yaakov, c'est de la cruauté absolue. Asher, manam, mimer, péri, mais c'est ton problème. Moi, j'ai des enfants. Comment on peut comprendre cette réponse-là? Alors, il y a le Ramban sur place. Il dit, ouais, on va comprendre ces mots, parce que même son pérouche est très bekitsour. Il dit Vezel et Yasser ota ou l'achlima. C'est justement pour la mettre à mal, pour la faire souffrir, la confondre. Veine at sadek et birota chez l'autochalismo at filat Yaakov, chez balit palel à la tzma, chavalit palel à la tzma, el chome at tzaka. Magnifique. Il te dit quelle est la technique de Yaakov? En fait, quand Rachel vient voir Yaakov, vous avez compris que. Elle est consciente qu'elle habite, que son mari, c'est le Admour des Admourim. Il a Yaakov, il fait la tefila, il parle avec Hachem. Donc, vadaï, toi tu vas remédier à ma situation. Et c'est justement ce que Yaakov ne veut pas. Il dit non, mais attends, c'est pas parce que je suis médecin que je vais te faire une consultation gratuite. Parce que le but n'est pas de te guérir, le but c'est que toi tu te bouges, c'est que toi tu te démènes, c'est que toi tu te tournes vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est magnifique. Et donc, quand vous regardez dans le, comme ça, le Ramban dit, quand vous regardez dans le texte que Rachel a eu effectivement Yosef, comment c'est marqué? Vaizkor Elohim et Rachel, Vaishma Eleha Elohim, Vaiftar et Rachma. Magnifique. Vaishma Eleha. Mais c'est exactement le but. Asher Madame Imer. Mais t'as pas compris? Bien sûr que si je prie demain, tu vas avoir un enfant. Mais c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut. Il veut que toi, tu te démènes. Arrête de compter sur ma capacité de prier. Il veut que toi, tu te démènes, toi, tu fasses une fila. Et Bémet, c'est ce qui s'est passé. Elle a fait une fila. Vaishma Eléa. Akadosh Baruch Hu l'a entendu à elle. Alors, il y a un vort aussi magnifique.
C'est le Ramban
qui dit ça. Vezele Yaserota. Nachmanidwa, effectivement. Il y a une très jolie Torah sur ça, justement. Qui explique que Sarah, pourquoi Sarai, elle n'avait pas d'enfant. Il dit parce que Sarai, elle avait un Yud. Et le Yud, c'est la lettre masculine. Ish. Ish, c'est avec un Yud. C'est le Yud qui détermine l'homme. Par contre, dans Isha, la lettre féminine, c'est le He, comme on a toujours appris. Il dit, Sarai n'avait pas de He. Akadosh Baruch Hu lui a changé son nom en Sarah, lui a mis un He. Elle a pu avoir des enfants. À partir de là, elle est devenue féminine. Il s'avère que Rivka avait un He. Donc, son mari a prié. Le Nochari, elle aussi a prié. Bezavizo, qu'on a vu dans le parashat la semaine dernière. Okay. Léa a un He. Mais vu sa position défavorable, Akadosh Baruch Hu lui a ouvert la matrice. Ok, très bien. Rachel n'a pas de He. C'est pour ça que la première tentative est de dire... La première qui a donné sa servante, c'était Rachel. Et comment s'appelle la servante de Rachel? Bilha. Il lui dit, va boal shifrati, ve ibane gam anochi mimena. Et je pourrais moi aussi me construire à partir d'elle. Et cette Torah disait, Bilha, elle a deux haies. Alors moi, Rachel, qui n'ai pas deux haies, peut-être que je pourrais profiter de un pour elle et un pour moi. Et grâce à son haie, je pourrais moi aussi avoir des enfants. Ça, c'est quelque chose d'intéressant qu'on revoit, en tout cas dans ces modes. Bon, c'est pas un hasard. Bon, bien entendu que la question qui s'impose à nous, et c'est la fameuse question à chaque fois qu'on aborde le sujet de la tefila, est-ce que véritablement Akadosh Baruch Hu a besoin que je lui dise quoi me donner? Lui ne le sait pas. Et si il le sait, donc il a décidé de quelque chose, alors pourquoi ma tefila changerait quelque chose? D'accord? C'est la question fondamentale sur la tefila, que le Sefer HaIkarim pose d'ailleurs. Il dit Oshé Nixar, Oshé Lo Nixar, Im Nixar. Il dit s'il y a eu un décret, alors pourquoi tu pries? C'est la décision d'Hachem. Im Lo Nixar. Et s'il n'y a pas de décret, alors je n'ai pas besoin de prier aussi. Alors, alors, en fait, pour expliquer un petit peu ce système, qu'on connaît tous, mais sur lesquels on a besoin de mettre des mots quand même. Il y a l'histoire de, vous savez, d'un chassid. Assez aisé, qui un jour est parti voir son rabbi, c'était le rabbi Shalom Mimezrich, non, rabbi Shalom Dovber, ouais. Et il est pas, parce qu'en fait, il était en train de vivre un gros problème au niveau de sa parnassa. Et il s'est dit, je vais aller voir le rabbi. Lui, le rabbi a des réseaux, il connaît, il va me brancher avec un autre fournisseur, etc. Bon, il va me trouver une solution à mon problème, je vais lui demander une bracha, il va m'aider. Et donc, quand ce chassid a vu, on va dire, la détresse arriver, il n'a pas paniqué du tout. Et avec sa confiance en lui, son assurance, il va voir le rabbi. Le rabbi, voilà, écoutez, en ce moment, il y a telle chose qui va mal. Je vais à la dérive. J'ai besoin de votre aide, une bracha, un conseil. Le rabbi lui dit, mais pourquoi? Mais débrouille-toi tout seul, qu'est-ce que tu as besoin de moi? Non, rien du tout, je veux vraiment entendre de toi. Sors de là. Et là, le chassid en question sort. Très angoissé, il éclate en sanglots parce que là il comprend que son problème est assez sérieux et que ça va l'amener à une défaite assez lourde à supporter. Il se met à pleurer et à ce moment arrive le frère Rabbi Zalman. Il passe devant ce chassid en train de pleurer. Tu sors de chez le rabbi, t'es en train de pleurer. Il dit oui, j'étais sûr qu'il allait m'aider, je suis venu lui poser la question. Et il a refusé. Rapidement, rentre chez son frère. Il a dit, comment? C'est ça, les chassides. Comment t'as pu ne pas l'aider? Il dit, qu'est-ce qu'il a? Il dit, il est en pleurs, il est complètement décomposé. Il a dit, lui, de rentrer. Il rentre. Là, il lui dit, c'est quoi ton problème? Rappelle-moi. Et il lui dit, bien sûr, je vais t'aider. Il fait une bracha, etc. Il trouve la solution. Son frère, il lui dit, mais attends, qu'est-ce que tu m'as fait là? Deux minutes, tu l'as vu, tu as refusé, après moi je suis intervenu, tu l'as fait rentrer. Il a dit non, comprends bien. Cet homme est rentré avec la certitude que j'allais lui donner la solution. Donc à partir de là, je ne pouvais pas lui donner, parce que c'est pas ce qu'on attendait de lui. À partir du moment où il est sorti de mon bureau, il s'est mis à pleurer, parce qu'il a compris la détresse dans laquelle il était. C'est plus le même homme. C'est un autre homme. Il s'est positionné différemment. Ah, celui-là, je le veux. Celui-là, je l'aide, effectivement. Et c'est une des façons de percevoir la nécessité de la tefillah. C'est-à-dire quoi, Kadosh Baruch Hu, il est mit avé, les tefillatins, chez le tzadikim. Il est mit avé à la position différente dans laquelle l'épreuve met l'individu. C'est pas, oh, j'aime bien, vas-y, fais-moi entendre ta voix, vas-y, supplie-moi encore un peu et peut-être je vais te donner. Non, c'est pas ça. C'est que la détresse, il a besoin de la position dans laquelle l'être va être en détresse pour réaliser que tout vient d'Hachem, et c'est cette position qu'Akadosh Baruch Hu cherchait à la base. C'est ça qui va tout changer. On comprend maintenant que, bon, juste pour finir, c'est un mot vraiment très précis. J'adore moi, le Lashon HaKodesh, vous connaissez l'exactitude du Lashon HaKodesh. En français ou en anglais, le mot tefillah est très mal traduit, il est même perverti. On appelle ça une prière. Une prière, c'est quoi ? Je te prie de me donner telle chose. C'est-à-dire que le principal est d'obtenir ce que moi je vais formuler. Alors que le mot tefillah, c'est pas bakasha. Bakasha, c'est prière, oui, bakasha, c'est une prière. Mais la notion de tefillah ne fait pas référence à une prière, ça fait référence à, en fait, à une liaison. Akadosh Baruch Hu a besoin de cette liaison pour... Et en fait, c'est la détresse est le moyen d'entretenir la liaison. Et c'est une Mishnah Mefureshet dans Maseret Kelim, au Peret Gimel Mishnah He. Là-bas, on parle de quelqu'un qui est Tofel Kelim, à Tofel Klicheres. C'est quoi Tofel Klicheres ? En fait, il a un ustensile en argile qui est relativement fragile. Et lui, il va mettre un peu de ciment, un peu d'eau autour pour le solidifier. Donc en fait, il va lier la matière fragile qui existe. C'est comme si l'homme était cet instrument ou cet ustensile fragile. Et la tefila, qu'est-ce que fait la tefila ? Elle solidifie sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Elle lui permet de se lier, tout simplement. C'est se lier à Hachem. Donc, et c'est pour ça que les Chachem, d'ailleurs, c'est intéressant. Comme le Rambam le dit, techniquement parlant, nous avons à la rigueur une mitzvah de prier une fois par jour. On doit servir Hachem avec son cœur. Il dit le Rambam, c'est une fois par jour. On a le chiouf de prier une fois par jour. D'où est sortie cette histoire de trois fois par jour, à part les korbanot, à part les avot, etc. Il dit, mais c'est justement parce que Chachamim se sont dit, mais si le but de prier est d'être en relation avec Hachem, donc c'est de nourrir une relation. Quand il s'agit de la nourriture du corps, on conçoit bien qu'il faut trois repas par jour. Alors, pour nourrir la relation que l'âme doit avoir avec son créateur, avec la source, c'est aussi trois fois par jour. Donc, effectivement, c'est une approche qui nous amène à comprendre pourquoi certains chassidim se préparent pendant une heure, pourquoi d'autres vont migver, d'autres dans la tzedaka, etc. Parce qu'on comprend à travers la tfila, c'est ce que Yaakov exprime d'ailleurs, magnifique, il dit « Veine sulam utzavar saverosho magia shamaima ». C'est-à-dire qu'au début, la tfila, c'est quelque chose qui est posé sur terre. C'est-à-dire, en fait, c'est un manque que je ressens sur terre, un besoin que je ressens, qui va faire que Rosho Magia Shamaima, que je vais tourner effectivement ma volonté, ma concentration, ma ferveur vers Hachem, vers le ciel, pour faire. Et c'est ça l'image de l'échelle. Et donc, c'est ça l'image quoi, qu'on fait montrer à Yaakov dans son rêve de cette échelle pour démontrer que le but de la tefila n'est pas tant d'obtenir ce dont on a besoin, mais surtout le manque de ce qu'on a besoin est là pour nous rendre des gens qui vont obligatoirement se lier avec Akadosh Baruch Hu afin d'obtenir tout ce dont ils ont besoin pour le servir encore mieux. Akadosh Baruch Hu yemaleh kol mishaloch ibenu letova, amen, ken yi ratzon.
Pour voir ça dans l'actualité en même temps. On a besoin de prier actuellement pour Israël.
Ouh là là. Plus que jamais.
C'est vrai qu'ils ont. Les États-Unis, ils ont.